La plus grosse carpe. Après mon accident de chasse, le médecin ne m'avait laissé aucun espoir. Il m'avait quand même fait passer tous les tests post-opératoires, comme s'il avait voulu que je me rende compte par moi-même qu'à 37 ans seulement, je ne pourrais plus plier la jambe gauche, et que ce qui restait de mon poumon s'essoufflait en un rien de temps sur le tapis automatique. Et pour finir, il m'avait conseillé la pêche. « Vous vous fichez de moi ?» Son visage soudain indigné m'avait montré qu'il était très sérieux. Ma colère avait alors débordé de mots et de gestes brutaux. En vain, bien sûr. Le pauvre n'y pouvait rien. Excédé, je m'étais levé et j'étais parti, en claquant la porte, pour qu'il ne vît pas que je pleurais. La chasse était le plaisir de ma vie. Les heures humides du matin, l'affût, la queue frétillante des beagles, l'odeur lourde des bois sous nos pas, les bruits furtifs qu'on apprend à identifier. Toutes ces sensations léguées par nos ancêtres depuis la préhistoire, comme autant de moments qui nous transportent dans une réalité parallèle à nos existences dénaturées de citadins. Et, surtout, la traque de la bête apeurée au bout du fusil, l'envie au fond de soi d'avoir en ligne de mire le solitaire du bois, un sanglier mythique particulièrement coriace. Sauf que cette fois-là, ça avait été moi, sa proie. Après des week-ends entiers, passés à geindre et à boire des verres de rouge au bar des amis, je m'étais finalement retrouvé un dimanche matin à faire tamponner ma carte de pêche à l'association des pêcheurs de Loire et Plan d'Eau, ouverture du vendredi midi au dimanche soir, midi 20h, conseils et renseignements. L'humour des pêcheurs ressemble à celui des chasseurs, et leur bière a le même goût. Elle est seulement plus fraîche. Je n'ai donc eu aucun mal à m'acclimater. Et maintenant, je commence même à apprécier ces matins brumeux où chacun vient installer son siège, préparer ses hameçons, vérifier la tension de sa ligne, écouter les bruits du lac, regarder une nageoire effleurer la surface. On sort son matériel, à distance respectueuse des autres, on se salue, mais personne ne parle vraiment. Pas encore. On se contente de placer quelques bouteilles de bière dans l'eau en attendant la chaleur. La ligne que j'ai posée aujourd'hui paraît primitive, en comparaison de l'attirail ultra sophistiqué de mes voisins. On sent les professionnels. Système d'attache pour plusieurs cannes à différents types de moulinets, lanceur d'amorce programmable intégré, alerte électronique de prise qui permet de préparer le barbecue en attendant que ça morde, siège pliant en toile cirée avec rabat en cas de pluie, abri coupe-vent démontable en moins de 30 secondes et... Bon, moi, je m'assieds dans l'herbe, la jambe gauche raide, l'œil sur le bouchon. Et, peu à peu, je retrouve des sensations. Pas beaucoup, mais quelques-unes. Celles de ce moment où tout est possible, où l'on devine que les poissons oscillent quelque part, là, sous la surface trouble. Je les imagine. Ils s'approchent de l'hameçon, s'en éloignent, flânent, hésitent, reviennent. Que se passe-t-il vraiment là-dessous? Ah, ça y est, le bouchon a plongé! Je me redresse d'un coup, mais il est déjà remonté. Fausse alerte. Je retire quand même la ligne pour vérifier que l'amorce y est toujours. Elle a disparu. Je souris. Mon voisin s'amuse de la ruse et de l'habileté du poisson, puis fronce les sourcils. Mais c'est un hameçon à ardillon! Évidemment! Je compte bien le ferrer et le faire rissoler dans ma poêle. Mon rire franc se heurte à son visage rond et luisant, un peu ennuyé. C'est que on ne t'a pas prévenu? Je hausse les épaules avec une mimique de dénégation. Ici, à l'association, on ne tue pas le poisson. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Tu se moques de moi ou quoi? Mais c'est qu'il a l'air sérieux, le bougre. En fait, On ne le pêche que pour le sport, tu vois. La beauté du geste, la lutte homme-animal, où chacun a ses chances. Je lève un sourcil. Ça doit être un bizutage pour les petits nouveaux. Et j'imagine aussitôt les pêcheurs de l'association réunis la veille dans la salle d'accueil autour de quelques bouteilles. Je les vois se pousser du coude en riant à l'avance de la bonne blague qu'ils vont me faire. Le président, Frédéric, avec sa chemise à carreaux sur son gros ventre, parle plus fort que les autres. Eh lui, c'est un chasseur! Il y connaît rien! On va lui faire croire qu'on pêche le poisson et qu'on le relâche sans le bouffer! J'entends redoubler les rires de Philippe, le trésorier. On va lui dire. Il prend un air faussement pénétré. Qu'un poisson qu'on remet à l'eau, c'est un cadeau qu'on fait à un autre pêcheur. Il se tape sur les cuisses et se renverse un peu de bière sur la chemise. Je me passe une main indécise sur le menton. C'est sérieux cette histoire ou c'est moi qui me fais un film? Quand je regarde le visage franc et lisse de mon voisin et que je plonge mon regard dans ses yeux ronds à fleur de tête, je n'y lis aucune malice. Tu veux dire que tu attrapes le poisson, tu le sors de l'eau et tu l'y remets. Oui, c'est ça. Tu te bats contre sa puissance. Tu l'épuises. Tu le sors et tu le prends en photo, bien sûr, pour avoir une preuve. Et puis, bah, tu le remets à l'eau, oui. Il a l'air sincère. Alors, vous pêchez seulement pour faire chier le poisson? Un large sourire fend son visage. Ah oui, on peut dire ça. Il retire sa canne et me montre ses hameçons sans ardillon. Moi, c'est Johannes, mais tout le monde m'appelle Yo-Yo. Je serre sa main humide et froide, où luisent quelques écailles des poissons qu'il a déjà attrapés. Ah, et moi, c'est Jérôme. Tu veux que je te prête des âmes? Mais il n'a pas le temps de terminer sa phrase que nous entendons la voix de Philippe, de l'autre côté du plan d'eau, qui s'exclame tout excité. C'est la grosse! C'est la grosse du fond! Yo-Yo me sourit. Ah, celle-là? C'est pas encore aujourd'hui qu'on l'attrapera, tu peux me croire. C'est une rusée. Je ne sais pas quelle taille fait la grosse du fond. Mais si j'en juge par l'énormité des prises de mes voisins, ça doit être un véritable monstre. Il n'y a bien que Yo-Yo qui ne sorte qu'un gardon frêle ou une jeune carpe qu'il s'empresse de rejeter à l'eau. Et moi, bien sûr, qui n'ai ramené qu'un poisson-chat que je n'ai eu aucun regret à rendre au lac. En tout cas, il n'a pas l'air jaloux des prises de plus en plus grosses que sortent nos amis de l'association. Certaines sont si imposantes et si difformes qu'elles en feraient presque peur. À chaque fois, on sort les téléphones portables, on pèse, on congratule, on envoie des textos entre les deux rives du plan d'eau et des photos. Les dernières grosses mémères sont si lourdes qu'il faut être deux pour les soulever, et que je me surprends à penser qu'il est heureux que ces bestioles ne trouvent pas la chair humaine à leur goût. J'en frissonnerais presque. Et toutes sont rejetées à l'eau. Pourtant, les pêcheurs le font à contre-cœur. Je le vois bien. Ils font durer la photo. Ils s'échangent des regards obliques, comme s'ils s'attendaient à ce que l'un d'eux ose transgresser la règle. Et maintenant, par exemple, je vois Damien qui grimace sous le poids de la carpe qu'il ne veut plus lâcher. Damien, que tout le monde surnomme Répartout, parce qu'il remet une canne à pêche en état avec trois bouts de ficelle, est aussi l'un des plus gros vantards que j'aie connus, au point qu'on en perd parfois le plaisir de la conversation. Mais cette fois-ci, il n'aura pas grand-chose à ajouter pour susciter l'admiration. Sa carpe est une vraie monstruosité. Mais remets-la à l'eau, bon sang! Fais pas l'imbécile! C'est Frédéric qui essaie de le raisonner. Je ne comprends pas tout ce qu'ils disent. Ils sont trop loin. Je n'entends que des bribes où revient sans cesse le prénom de Rodolphe. Quel Rodolphe? Que je sache, il n'y a pas de Rodolphe à l'association. En tout cas, l'argument porte. Damien vient de rejeter la carpe et part en jurant. Je ne suis pas encore un pêcheur aguerri, mais au bout de quelques mois, je commence à m'y connaître un peu. Les lancers en cloche n'ont plus de secret pour moi. l'amorçage au lance-pierre et au propulseur Cobra, l'observation des carpes dans les herbiers, le détecteur de touche, le pesage, la réception sur tapis humide, pour ne pas abîmer la bête, les bouillettes à tous les parfums, les montages, les plombs de fond. Sauf que je n'ai toujours rien attrapé de plus gros qu'une modeste carpe de 300 grammes. Alors, me voilà assis, sur mon siège pliant, ma canne à la main, en train de ruminer et de chercher à comprendre pourquoi je n'y arrive pas. C'est vrai, quoi! Surtout quand je vois tout ce que les autres sortent de ce modeste plan d'eau. C'en est presque incroyable. Comment peut-il contenir et nourrir autant de ces énormes poissons? Parce que j'ai vérifié sur les photos affichées dans le hall de l'association. Ce ne sont jamais les mêmes bêtes qui sont sorties ces dernières semaines. Pourtant, ce sont de sacrés morceaux. Du 50 kilos, sans parler de la mythique grosse du fond. Je commence presque à y trouver quelque chose d'anormal. Peut-être que je me fais encore un film. Ou est-ce qu'on me cacherait quelque chose? Tiens, voilà Johannes. Il arrive tard ce dimanche. Je le regarde s'installer tranquillement. Il ne perd pas une miette du spectacle des libellules qui volettent sur les eaux huileuses du plan d'eau. Je remonte ma ligne. Le poisson a encore boulotté mon amorce sans se faire prendre. Je soupire. Et toi, Yo-Yo, tu voudrais pas la sortir de l'eau, la grosse du fond? « Non, » me répond-il lentement sans quitter sa ligne des yeux. « Et toi ?» Sa voix, qui semble s'adresser à la surface de l'eau, me paraît soudain moins enjouée, plus inquisitrice que d'habitude. Pourquoi ne tourne-t-il pas vers moi son visage souriant, comme il le fait en temps normal? Ma question trahirait-elle mes inquiétudes? Moi non plus. Je n'aime pas dire des mensonges, surtout quand ce n'est pas absolument nécessaire comme maintenant. Mais un sentiment que je ne saurais définir me pousse à ne pas me dévoiler. Parce qu'à la vérité, j'y pense de plus en plus à cette bête-là. C'est Raymond qui m'a appris ce qui était arrivé à Rodolphe, le jour de la galette des rois. Il avait un peu bu et il s'était penché. On ne le voit presque plus à l'association, Raymond. Rodolphe et lui étaient amis depuis l'enfance et ne se quittaient pas, au point que les autres les surnommaient les deux R ou Ro et Ray. Quand Rodolphe a voulu garder la carpe de 52 kilos qu'il venait de sortir de l'eau, Raymond a tout fait pour l'en empêcher. Mais Rodolphe est parti quand même, furieux qu'on ait voulu le retenir. Il avait un peu bu aussi. Et il a claqué les portières de son 4x4 en insultant tout le monde. Malheureusement, sa colère l'a aveuglé. Et il a foncé dans un arbre. Mort sur le coup. On l'a retrouvé, en piteux état, la tête écrasée contre le pare-brise et le corps poisseux du mucus de la carpe qui avait glissé sur lui sous la violence du choc. C'était il y a 3 ans. Depuis, Raymond ne vient plus trop. Il ne pêche plus et ne passe que pour boire un petit blanc avec les amis. Certains racontent même qu'il est devenu végétarien. Dommage pour lui, mais ce sont des choses qui arrivent. Moi, ce que je veux maintenant, c'est tenir la grosse du fond, au bout de mon hameçon à Ardillon. Elle est peu à peu devenue une obsession chez moi. La pêcher et la garder. Pas pour la manger, ces poissons de vase ont un sale goût et leurs arêtes en forme de Y vous restent dans la gorge, mais pour la naturaliser en trophée, même si ça n'est pas l'éthique de la maison. Le problème, c'est que je ne pêche toujours rien de gros. Et pourtant, ce serait facile. Tout le monde sait comment faire. Il suffit de venir de nuit, au bord du lac, avec une lampe tempête, et de s'avancer dans l'eau. Le guide du pêcheur français l'a écrit. Si la carpe est un animal prudent, qui ne mord pas sans avoir longuement flairé l'appât avec ses barbillons de vieux sage, elle succombe néanmoins à l'attrait de la lumière, aussi facilement que des papillons de nuit. Et je me vois très bien claudiquer en cuissarde sous la lune, une lampe à la main et une autre sur le front. Personne n'en saurait rien, et moi, contrairement à Rodolphe, je ne bois presque pas. Tout est prêt. J'ai cédé à mon étrange obsession, et j'en frémis. Malgré l'eau glacée qui enserre mes jambes autour du caoutchouc des cuissardes, je reste immobile dans la nuit d'août. Mon oreille, concentrée sur les clapotis, entend à peine les moustiques, et mes regards scrutent chaque mouvement de vaguelette. Le flotteur de ma canne, presque au milieu du cercle que dessine ma lampe, se tient raide et prêt. Pour l'occasion, j'ai adopté une nouvelle technique. La canne à élastique, sans moulinet, pour que la lutte avec le poisson soit vraiment sportive. Sportive. Le grand mot est lâché, alors que je sais très bien que si j'en attrape une belle ce soir, je la sors et je me la garde. L'eau commence à s'agiter. Des nageoires et des queues frétillent, de plus en plus nombreuses. J'ai mis la dose de bouillette, et la lumière fait le reste. Toutes se rassemblent, si abondantes que je pourrais me pencher et les prendre par brassée. Mais je ne bouge pas. Les grosses, les monstrueuses ne sont pas encore là. J'attends. Dans l'odeur toujours plus répugnante de la vase, elles se frottent les unes aux autres et paraissent se dédoubler, se multiplier, au point qu'elles grouillent à présent et que je me demande comment elles peuvent encore respirer dans cette eau raréfiée. Les claquements de queue, les battements de nageoires deviennent de plus en plus bruyants et font taire les grillons, les grenouilles et les chats-huants. On n'entend même plus le passage des bourrasques dans les feuilles des arbres dont les ramures, penchées vers la forêt, donnent l'étrange impression qu'elles se détournent de l'étang. Contre mes cuisses, je ne sens plus la pression du liquide, mais seulement celle des coups de flanc musculeux qui s'ébattent et m'enserrent jusqu'aux pieds. Au milieu des reflets de nageoires et d'écailles, il transforme l'eau en une matière vivante. Et si je reste immobile, ce n'est plus par choix, mais parce que la peur et les carpes me clouent sur place. Dans la vase puante, partout, par centaines, elles s'agglutinent, se pressent, se battent, s'agitent, s'enchevêtrent les unes dans les autres, se pénètrent en une masse de chair à mille queues, à mille têtes, informe et plastique. Ma gorge s'assèche. Je me rends compte à l'instant. Et je ne respire plus qu'à petits coups. Et mon cœur s'emballe, et ma sueur dégouline dans ma combinaison, et dans mes cuissardes, misérable armure pour mon corps si fragile au milieu des claques assourdissantes des écailles, de l'énormité qui m'entoure et qui prend forme à présent. Toutes les carpes se sont désormais fondues les unes dans les autres, et chacune est l'écaille vivante et indépendante d'un poisson gigantesque de la taille d'un diplodocus qui s'élève et flotte négligemment à quelques mètres au-dessus de l'étang vidé, aussi nu qu'après un curetage, avec ses herbiers à sec, ses bouteilles enfoncées dans la vase et un arbre à cames rouillé. Cette horreur suintante bat lentement des nageoires juste devant moi. Quelques algues et des branches mortes restent coincées à ces poissons écailles qui de temps en temps frétillent. Tandis qu'elle approche de moi son odeur de vase et d'eau croupie, du mucus glisse le long de ses flancs et j'aperçois son œil, ou plutôt les répugnants frétillements qui en tiennent lieu et qui brillent d'une intelligence inhumaine. L'horreur m'empêche de trouver un nom à cette entité de cauchemar qui me sonde et me scanne, puis m'analyse, et dont je sens la supériorité de la pensée sur la mienne. Son étrangeté me réduit à l'état d'objet. Dans mes vêtements trempés, tous les poils de mon corps se hérissent, et je sens mon souffle s'échapper et mon sang se tarir face à l'insoutenable vision que ma raison ne peut concevoir ni affronter. Rien de tout ça n'existe. Je vais me réveiller. Seul, une forte douleur à la gorge m'empêche de sombrer dès maintenant dans le seul refuge envisageable qu'est la folie. Pourquoi ai-je si mal à la gorge? Parce que je suis en train de hurler. Depuis combien de temps? À m'en déchirer les cordes vocales et les tympans, et que je ne m'en étais pas rendu compte. Lorsque je me réveille au bord de l'étang, il fait presque jour. Tout a l'air normal. Le vent vient rider la surface de l'eau, tandis que l'aube éclaire les arbres et réveille les oiseaux. Je ne bouge pas, même si j'ai un peu froid. Allongée sur la berge, dans mes vêtements poisseux, j'essaie de reprendre mes esprits. Je me passe la main sur le visage. À ma peau restent collées des centaines d'écailles. Et cette odeur, lourde, qui m'entoure. Non. Elle vient de moi, de mon chandail et de ma combinaison, de mes cheveux, couverts de mucus séché, encore un peu gluant par endroits. Comme si j'avais été avalé, puis recraché par un poisson géant. Je tremble. Je ne peux pas m'en empêcher. Parce que maintenant, je sais. Je sais pourquoi on peut pêcher des carpes gigantesques dans un étang de 3 mètres de fond. Je sais surtout qu'elle est là et qu'elle veillera à ce que je respecte les règles, la grosse du fond.